Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, avant de parler de ton sujet principal, les contrôles du gouvernement fédéral sur la prestation canadienne de la relance économique, as-tu vu que le condo le plus cher à Montréal s'est vendu?
11 millions de dollars, moi, j'avais vu ça dans les derniers jours.
On demandait 12,9.
Vraiment une perte, hein, incroyable, 11 millions. 73 000 piastres de taxes, Patrick.
Oui, et 124 000 $ de frais de condo.
Puis oublie pas, Patrick, tout ça, c'est de l'argent net, là.
Oui.
C'est pas de l'argent brut. Mais il faut comprendre que ce genre de condo-là se vend à des gens qui ont des fortunes, qui dépassent l'entendement et qui ont pas une chambre d'hôtel dans une ville, Patrick. Ils ont un pied à terre.
Mais c'est un Américain qui l'a acheté et tiens-toi bien, l'Américain qui l'a acheté, il l'a pas visité en personne, il l'a visité par visioconférence.
Mais Patrick, fais la proportion des revenus. C'est comme quand j'ai appelé l'autre fois dans un magasin de meubles et je me suis acheté une laveuse au téléphone.
Oui.
Ben, il m'a acheté une laveuse au téléphone. Bah oui, OK, c'est beau, tel modèle, parfait, buy, sing, voici la carte de crédit. Ben, pour des gens très riches, c'est la même proportion. Et il y a aussi des gens qui sont spécialisés, des courtiers, dans la sous-traitance, c'est-à-dire que il y a des courtiers qui se rendent compte, puis le client, il va juste conclure la transaction, mais c'est le courtier qui fait la visite. Et des fois, il y a des gens qui se fient à d'autres personnes pour la visite et le bon goût, comme on se fie à un styliste ou une styliste pour se faire habiller quand on a moins de goût.
Mais, tu sais, on dit que l'achat d'une maison ou d'une propriété, c'est l'achat le plus important de ta vie. Pour nous, les simples mortels pas riches comme ça, on veut le voir avant.
Oui, mais tu sais, ça, tu viens de le dire, mais pour eux, Patrick, c'est peut-être un jet privé qui est l'achat le plus important de notre vie.
C'est vrai, t'as raison. Mais écoute, pour situer les gens, là, le condo est au Ritz, dans l'édifice du Ritz. On sait que maintenant, il y a des condos.
Dans les hôtels.
Au Ritz-Carlton, oui.
Pour rentabiliser les hôtels d'autrefois.
OK, et pour les gens qui ne peuvent pas s'acheter un condo à 11 millions sur la rue Sherbrooke-Ouest, il y a la prestation canadienne de la relance économique.
Oui, ça, c'est pour... Il y a un problème dans le moment. Les travailleurs autonomes, Patrick, se font parfois refuser la prestation canadienne de relance économique pour l'instant en se faisant dire « on veut des preuves supplémentaires que vous êtes admissible ». Et là, sur Facebook, aujourd'hui, hier, j'ai commencé à voir des commentaires de gens qui sont fâchés.
Pourquoi?
Comment ça se fait que le gouvernement me demande des preuves? Mais là, on est après la PCU. La PCU, on envoyait le chèque par urgence. Là, ça fait 10 mois qu'on a commencé, le 15 mars, ça fait longtemps, là, qu'on a commencé les problèmes liés à la pandémie. Le gouvernement a dit, on va mettre en place des contrôles pour s'assurer que la personne à qui on envoie un chèque, c'est la vraie personne. Donc, même, il dit, comment ça qu'il me demande mon adresse de prouver que j'habite là, d'avoir un relevé de paye, de prouver que j'ai eu des revenus? Bien, parce qu'il faut prouver que vous rentrez dans les critères. Un, vous êtes la vraie personne, et deux, quand on vous contrôle comme ça, c'est qu'on veut s'assurer qu'on donne l'argent à la bonne personne et que la personne entre dans les critères, qu'on ne lui demandera pas de rembourser par la suite. Il y en a qui disent « Ouais, mais ils ont déjà la preuve que j'ai déclaré mes revenus. » Oui, en 2019, mais pas en 2020, ni selon les 12 derniers mois. Donc, c'est pas tout le monde qui entre dans les mêmes critères. Et on envoie un courriel, disons, générique. Après ça, on peut parler avec le gouvernement pour leur prouver qu'on a besoin de ça et qu'on rentre dans les critères. Mais c'est important de mettre des contrôles en place pour ne pas se retrouver avec des chèques à des fraudeurs. L'autre point, c'est de dire même aux gens, si tu manques d'argent puis que tu es chez vous parce que tu n'as pas ton emploi à cause de la COVID ou que tu as baissé 50% de tes revenus à cause de la COVID, tu as un petit peu plus de temps, techniquement, parce que tu n'es pas supposé être admissible à l'assurance-emploi et tu n'es pas supposé travailler autant. Et donc, tu devrais être capable de fournir une coupe de papier. J'avoue que le gouvernement tire un peu loin quand tu regardes la liste. Là, il te demande des affaires un peu longues, des fois pas faciles à obtenir. Peut-être qu'il y a de moyens de négocier. Mais pensez à la fraude. Vaut mieux avoir un petit désagrément pour pas de fraude qu'avoir pas de désagrément puis de payer pour tout le monde.
Tu as fait une chronique ce matin chez Paul Arcand où tu parlais du CELI. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas aimé ça. Rappelle-nous d'abord, c'était quoi ton idée?
Bon, premièrement, il faut comprendre qu'il y a des groupes de traders, il y a des hommes très, 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 disons, fâchés dans la vie. Puis là, je parlais du CELI. Et je parlais du fait que ils ont vraiment un problème de société éventuellement. Mitch Garber parle de l'écart entre les investisseurs et les travailleurs. Mais le CELI, ça te permet de mettre dans le moment 75 500 piastres de placement à l'abri de l'impôt. Et chaque année, ça augmente de 6 000 depuis 2009. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'un jour, on aura un problème parce que si j'ai placé aujourd'hui 75 500 et que je le décuple par 5, 10, 15, 20, et qu'en plus, on me donne un plafond qui peut continuer, c'est-à-dire que j'ajoute chaque année un 6 000 que ce 6 000-là est multiplié par 5, 10, 15 avant que je le retire, on va se retrouver avec des millionnaires de la retraite non imposable. Les gens disent, il n'y a pas de problème avec ça. Si j'ai mis 50 000, ça vaut 300. Je le mérite, OK. Mais comprenez que si on accepte ça, regardez ce qui s'en vient dans 10, 15, 20 ans. On va avoir des gens qui vont avoir des maisons payées, non imposables gains, qui vont avoir un CELI rempli, gains non imposables, qui vont avoir des sociétés incorporées où c'est juste imposé au moment que tu sors l'argent,
des niveau fiducie.
Personnel, des fiducies, etc. Finalement, il y a des gens qui vont vivre des décennies à l'abri de l'impôt pratiquement. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Ces personnes-là vont retirer 50 000, 100 000 de leur cellule une année. Puis qu'est-ce qu'on va dire? Crème, tu n'as aucun revenu déclaré. On va t'envoyer le supplément de revenu garanti, qui est l'assistance sociale de la retraite, Patrick. Et donc, c'est ça qui est un peu fou. On a des mesures fiscales qui sont bien logiques une par une. Je dis pas qu'il faut imposer le CELI, là. Daniel, Patrick, ou peu importe ton nom, qui a eu beaucoup de frustration ce matin. Pense à l'effet global de la population totale. Pas de ton CELI à toi que tu as présentement. Je veux pas imposer ton CELI. Je veux dire que sur le 75 500 qu'on est rendu, on pourrait-tu plafonner, par exemple, à 100 000 pour tout le monde? Le 100 000, le gain ne serait pas imposable, mais la cotisation initiale aurait un plafond.
Mais l'argument des gens qui t'ont écrit et t'ont frotté les oreilles, c'était quoi?
Bon, Patrick, là, c'est l'argument que je n'étais pas bon, j'ai déjà fait de l'argent et donc, en tant que privilégié, je ne devrais pas empêcher le pauvre monde de faire de l'argent à l'abri de l'impôt. Mais justement, 75 500, c'est déjà beaucoup d'argent de cotisation à l'abri de l'impôt. Mmh. C'est les gens les mieux nantis qui vont pouvoir mettre ça toute leur vie. À moins que tu fasses une stratégie fiscale 100% orientée sur le CELI avec un salaire moyen, tu peux et je suis d'accord. Mais comprenez qu'on ne peut pas arriver à 50 ans, avoir 1 million d'actifs non imposables, maison plus retraite, recevoir des services de l'État et en plus être officiellement pauvre aux yeux de l'État parce que nos CELI ne sont pas imposables. Il va falloir éventuellement qu'on change les règles. Soit qu'on laisse le CELI non imposable, qu'on ne met pas de plafond, mais que tout le reste du système fiscal change pour avoir de l'équité. Je ne suis pas un gars. Là, arrêtez de me tirer dessus en disant que tu es une espèce d'extrémiste gauche. C'est pas gauche, pas droite. Je suis dans la réflexion collective. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne commence pas à réviser notre fiscalité? On regarde toujours les mesures, Patrick, une par une. Le CELI, le REER, l'allocation canadienne pour enfants. Mais quand on met tout ça ensemble, puis quand on est CPA, puis qu'on a été formé à comprendre et optimiser la fiscalité, on se dit, hey, il commence à avoir beaucoup de trous là, 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 puis là. Alors, Patrick, je vais te donner une stratégie bien facile. Si les gens veulent que ça continue comme ça, pas de problème. Laisse ton argent dans ton INC. Paye ta maison, mets ton argent dans ton CELI, contribue le moins possible à ton REER, paye juste le CELI puis dans ton INC. Quand tu arrives proche de la retraite, retire-toi un petit salaire de ton INC pour ne pas avoir d'impôt à payer, prends le reste de ton CELI, demande le supplément de revenus garanti puis la sécurité de vieillesse, deviens finalement un multimillionnaire en actifs puis jamais payer d'impôt pratiquement à la retraite. La société dans laquelle on vit semble trouver que c'est logique. Alors, Daniel, Patrick ou Kevin qui êtes fâchés ce soir, pensez à ce côté-là, le côté obscur de la force du CELI. Voilà.
Bel éditorial, merci Pierre-Yves.